Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Nordine, mon frère, présente-toi.
Yes, salam alaikum, ça va? Donc, moi, je m'appelle Nordine, j'ai 25 ans actuellement, ça fait à peu près 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et on va dire j'ai deux sociétés et une société où je suis actionnaire, d'accord? Donc, la première société dont je vais vous parler, c'est la première que, enfin, je vais vous dire dans l'ordre chronologique, c'est ma société de grossiste alimentaire cosmétique. On fait de la conception de marque de A à Z. Donc, si une personne lance, par exemple, il a un projet de produits cosmétiques, de savon, peu importe, on lui fait tout de A à Z aux normes européennes avec toutes les analyses, tous les dossiers d'IP et tout ce qu'il faut. Ensuite, il y a mon centre de formation, donc, dans laquelle j'ai créé l'académie, donc l'académie vendeur d'excellence, dans laquelle il y a formation création site, formation vente, formation SEO, donc référencement Google. Donc, c'est les trois qui sont compris. Plus un maximum de motivation avec des appels téléphoniques mensuels, etc. Bref, c'est vraiment un cadre, en fait, qui a été mis en place pour, donc, donner des compétences, mais aussi un maximum de motivation sur le temps. Raviver la flamme constamment. Cette petite flamme-là de l'entrepreneuriat qu'il faut garder. Surtout qu'on n'a pas forcément la fréquentation d'entrepreneurs. C'est-à-dire, on est souvent avec des salariés, on côtoie pas forcément des entrepreneurs. Bah, c'est bien d'avoir ce cadre, cet écosystème, avec qui tu peux interagir tous les jours. Donc, c'est ça que j'ai voulu mettre en place. Alhamdoulilah, ça fonctionne très bien. Et je suis actionnaire dans une agence digitale qui s'appelle Nia Agency, dans laquelle je m'occupe de toute la partie création de site, en fait, tout simplement. Okay. Et je suis aussi maintenant propriétaire du site Muslim Expat, qui est un site basé voilà, où il y a à peu près 9000 visiteurs mensuels, il y a un groupe Facebook de 6000 membres, et c'est basé sur l'expatriation, tout simplement.
Voilà, voilà. Mashallah. Oh, tu nous as dit, tu fais énormément de choses.
Ouais.
Mais... entreprendre, comme tu as dit, ça fait déjà des années, tu n'as que 25 ans, tu es jeune et ça fait quelques années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à l'entrepreneuriat aussi jeune, aussi tôt?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de passion, qui n'aime rien. Et j'avais vraiment pratiquement pas de qualité. Tu vois, la seule qualité que j'avais, c'est que j'étais têtu, en fait. Je suis quelqu'un de têtu, je suis quelqu'un, quand j'ai un truc en tête, je le fais et je fonce, en fait. Je m'en fous de ce qui se passe, des conséquences, etc. Et donc, en fait, j'étais, un moment, c'était vers mes 17 ans. J'allais en cours, je rentrais, je jouais à la play ou je sortais avec mes amis. Et au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis dit, attends, donc ma vie là, ça sera le cumul des actions que je vais faire au jour le jour. Donc je me suis dit, attends, imagine, je continue comme ça pendant 5 ans. Et qu'est-ce que je vais faire au final? Donc, certes, je vais avoir mon diplôme. Donc 1 500 € par mois, 1 600 € par mois, c'était voilà ce que je pouvais espérer avec mon diplôme. Et en fait, bah, quand je voyais les autres personnes qui avaient une vie bah, lambda, en fait, 1 500 € par mois, t'en avais les galères, voilà, leur femme elle est obligée d'aller travailler, etc. Ça m'a frustré un peu, je me suis dit, attends, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir cette vie, tu vois, une vie lambda, on va dire. Et donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, attends, si je continue comme ça pendant 5 ans, bah, ma vie, ça sera ça. Elle est tracée, en fait. Et en plus, je me suis dit, là, je perds du temps. C'est-à-dire, quand je rentre le soir, au lieu de construire quelque chose, bah, je joue à la play, ok? Le lendemain, j'oublie tout le plaisir que j'ai eu pendant que je joue à la play et je recommence. Et le surlendemain, ainsi de suite, pendant 5-10 ans. Alors qu'en fait, à ce moment-là, je peux construire quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi là, ne pas faire une pause sur tout ça, sur tous les trucs qui sert à rien sur le moyen long terme. Donc sur le court terme, bien sûr, ça procure un plaisir, c'est bien de se détendre des fois, mais sur le moyen long terme, ça m'apporte rien, vraiment rien. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de lancer un projet, un business, peu importe quoi lancer. Et c'est là que je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de commencer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé vers la fin de mes 17 ans. Et donc c'est vraiment par rapport à ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en allant dans le 93 au grossiste chinois d'Aubervilliers, en achetant des camises, des gilbèbes, des batteries portables, vraiment n'importe quoi. Vraiment, je voulais juste me lancer dans l'entrepreneuriat, juste faire quelque chose que je vais construire sur le temps. Et à ce moment-là, mon objectif, c'était de gagner 700 € par mois. Tu vois, c'était pas d'être indépendant financièrement, expatriation, tout ça. C'était vraiment juste de gagner 700 € par mois et je me donnais 3 ans pour atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que je me disais, bah, de toute façon, je vais faire des études, je vais avoir mon BTS, je vais gagner 1 500 € par mois. Si je gagne 700 € par mois, ça fait 2 200, tu vois, par mois et c'est bon. Et surtout à l'époque, en vrai, 2 200, c'était l'équivalent de 3 000 € par mois d'aujourd'hui avec l'inflation et tout. Donc voilà, bon, après avec le temps on voit que avec l'inflation 2 200 c'est plus forcément un très bon salaire. Bon voilà, le début il est venu d'ici. C'est-à-dire de base je suis quelqu'un, j'ai pas forcément de qualité, je bégayais beaucoup, j'étais ultra timide. Vraiment là comme vous voyez actuellement, j'étais tout le contraire vers mes 17-18 ans. Vraiment une catastrophe. Quand je levais la main en cours, enfin je levais même pas la main en cours, quand je levais la main, je réfléchissais 30 000 fois à ce que je devais dire. J'essayais de pas bégayer, je parlais, je bégayais, tout le monde rigolait sur moi. C'était vraiment comme ça en fait, toutes mes études. Et ça veut dire que j'étais complexé par le fait de parler. C'est-à-dire j'avais honte de parler en fait, tout simplement. Et donc j'étais très timide et voilà. Bon maintenant, alhamdoulilah, j'arrive à parler parce que avec les années d'expérience, c'est une seconde nature que je me suis créée, tout simplement.
Alhamdoulilah.
Voilà.
T'as acheté quoi avec ta première paye? Quand t'as commencé à vendre des Khamis et tout, ta première paye, t'as acheté quoi?
En fait, je te dis un truc, j'ai tout réinvesti. En fait, j'ai rien dépensé pendant 3-4 ans. J'étais toujours dans un délire, hein, où en fait, j'avais rien acheté, j'avais tout chez moi. Et moi, je me disais, bah, tant que j'ai à manger, tant que j'ai un toit, et je commençais, tu vois, j'étais un peu rentré dans la religion à ce moment-là. Donc, j'étais un petit peu, vas-y, tranquille. Tu vois, j'ai pas besoin de m'acheter trop de matériel, de rentrer trop dans les trucs comme ça. Déjà, je vais me construire un avenir. Moi, c'était vraiment ça que je voulais. Me construire un avenir, et ensuite, je me ferai plaisir, tu vois. Et ça fait que, bah, j'ai gardé cette habitude où tellement je réinvestissais à chaque fois, bah, en fait, ça m'a éduqué sur le fait de ne pas être matérialiste, tu vois. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, au moins, hein, je te parle pour mes dépenses perso, pas pour mes business. Mes business, c'est différent. Il y a plusieurs milliers d'euros qui sont investis chaque mois. Mais pour, bah, tu vois, c'est toujours dans l'investissement, en fait. Mais pour mes dépenses perso, et moi, et ma femme et mon fils, c'est 1300, 1400 euros par mois, tu vois. Et je dépense pas plus. Tu vois, c'est fou parce que je gagne beaucoup, beaucoup plus, tu vois, alhamdoulilah. Mais le gros, ça part dans l'investissement, dans lancer des nouveaux projets. Là, tu vois, récemment, j'ai racheté le site Muslim Expat à 17 000 euros. Bah, tout ça part, moi, dans mes projets. J'ai pas ce truc-là où je me dis, je vais me faire kiffer, tu vois. J'ai pas trop ce truc-là.
D'accord.
Donc, en vrai, j'ai pas forcément dépensé dans un truc personnel, tu vois.
D'accord. Est-ce que tu as eu des mentors? Parce qu'un jeune de 17 ans qui se lance comme ça, est-ce que tu auras des vidéos sur Internet? Est-ce que tu as un grand frère, quelqu'un? Est-ce que tu as un mentor vraiment qui t'a soutenu et qui t'a donné des clés, un petit peu des pépites pour réussir?
Non, franchement, j'ai pas eu de mentor. En fait, j'ai commencé 2 ans. Les 2 premières années, c'était que des vidéos YouTube. Et en fait, à l'époque, j'étais très orgueilleux pour te dire, j'étais vraiment nul à cette époque. Je disais que toutes les personnes qui se formaient ou qui avaient des mentors et tout, ils sont bêtes parce qu'il y a tout sur YouTube. Tu vois, je disais, il
Ah
y a tout
mais
sur
tu suivais qui sur YouTube
YouTube.
justement? C'est une forme de
Ah,
mentorat. C'est une forme de mentorat YouTube. Tu
ah
suivais qui? Tu regardais qui?
ok. Au début, tu sais, le premier truc que j'ai écrit, je le rappelais, c'est quoi? C'est comment être riche. J'ai tapé ça sur YouTube. Comment être riche. Je regardais, bon, ça disait n'importe quoi, tu vois. En gros, ça te parlait d'investisseurs comme Warren Buffett, ça allait dans tous les sens. Mais moi, je me suis dit, au moins, je chemine vers ce truc-là. Parce qu'à l'époque, j'avais pas ce truc-là où je me disais, il faut que je lance un business halal et taïb. On en parlera après si tu veux. Éthique, tu vois, un business réellement éthique où tu vas servir à quelque chose. J'étais dans le délire, bah, faut que je lance un business dans le halal, c'est tout. Tu vois, j'ai juste lancé un business, ouais, c'est halal, c'est bon, je prends. Donc, en fait, je prenais la science de tout le monde en réalité. Et au début, bah, je tombe sur, et au début, voilà, j'avais pas forcément de connaissances religieuses sur le commerce et tout, donc c'était au feeling. Je tombais sur du dropshipping, donc Yomi au début, Yomi Denzel, là. Je regardais ces vidéos de dropshipping. Après, j'ai commencé à me lancer dans le dropshipping. Après, dropshipping lié au SEO avec Dropshipping Reborn. Après, je regardais vraiment de tout. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, j'essaie de prendre le bon là où je le trouve. C'est comme une parole de l'imam Malik qui dit, en gros, prenez de moi le bon et rejetez le mauvais. Et moi, j'essaie d'appliquer ça avec tout. Mais le problème, c'est quand tu es débutant, tu peux pas savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais tant que tu l'as pas testé. Et donc, moi, en fait, je me suis mis dans une situation où, pour savoir si une chose est bonne ou pas, il faut que je la teste. Donc, un tel influenceur sur YouTube, il dit un truc, bah, je vais faire. Et donc, je perdais plein d'argent. Au début, j'ai perdu plein d'argent. Et à partir de la 2e année, c'est là que j'ai commencé à me former. Parce que je me suis rendu compte que je perdais tellement d'argent qu'au final, c'était mieux de se former et d'éviter ces erreurs-là. Donc, voilà.
Exactement. Est-ce que tu fais partie de l'école des entrepreneurs qui disent qu'il faut aimer quelque chose, vraiment d'un amour incroyable, pour pouvoir se mettre à fond dedans, ou est-ce que tu peux investir sur des choses que forcément tu n'aimes pas?
Alors, en fait, sur le côté purement entrepreneurial, je vais te dire que ouais, moi, je suis pas dans le délire de aimer une chose pour le faire. D'accord? Maintenant, si on parle du côté éthique, religieux, pour moi, en fait, c'est pas forcément aimer quelque chose, mais avoir des convictions. C'est pas tu lances un truc pour faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ça jamais de la vie. Et ça marche pas. La personne qui va te dire ouais, moi, je veux juste faire de l'argent, donne-moi une idée de business, c'est des gens qui ne font pas d'argent, parce que c'est pas des gens qui vont patienter. Tu vois, un business, il faut patienter. C'est-à-dire, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont pas faire d'argent, ben, ils vont abandonner. Ils vont lancer un autre business, et un autre, et un autre. Et c'est comme s'ils construisent un pilier, tu vois, des piliers pour bâtir une maison ou un immeuble ou ce que tu veux. Et à chaque fois, ils les détruisent, ils passent au suivant. Ils commencent à construire, ils détruisent, ils passent au suivant. Et c'est des gens, au final, qui ne font rien. Donc, en fait, vouloir que l'argent, c'est pas bon. Tu vois, c'est contre-productif. Maintenant, se sentir utile. Moi, c'est plus ça que je vais dire, que je vais mettre en avant. Le fait de se sentir utile quand tu lances un business. Est-ce que je suis réellement utile? Est-ce que je réponds à une problématique? Est-ce que je réponds à un besoin? Et quand tu fais ça, que tu vas voir financièrement, t'es bien. Et même dans l'aspect psychologique, tu te sens bien dans ce que tu fais. Donc, pas forcément aimer la chose, mais aimer être utile plutôt. Moi, c'est plus dans ce délire-là. Et c'est plus ça que j'aime en réalité. Donc, aimer être utile. Donc, je vais aimer tous les business où je vais me sentir utile. Après, peu importe, que ce soit de la cosmétique, de l'alimentaire, de la formation. Tu vois, moi, je suis un peu partout. Mais tant que je me sens utile et que j'ai une plus-value à apporter à la communauté ou à l'humanité, pour moi, c'est un beau business. Tu vois, c'est bon. Ça me
Donc,
va.
dans tous les business que tu as là, que tu nous as cités dans l'introduction, c'est dans quel business que tu te sens le plus utile?
La formation actuellement. La
La
formation.
formation.
Avant, j'étais beaucoup sur le côté grossiste et tout. Enfin, En fait, dans tous mes business, pour moi, je me sens utile. Sur le centre de formation, encore plus, parce que je suis directement en contact avec les apprenants. Il y a des ateliers, des lives, des trucs comme ça. Donc, je vois les résultats directs, tu vois. Et le business de grossisse alimentaire cosmétique, récemment, en fait, avant, je vendais que l'huile de Nigel en gros. Tu vois, mais des grosses quantités. C'est des 600 litres, 700 litres. Ça dépendait des fois, tu vois. Des fois, ça baissait. Ça dépendait des mois, des semaines et tout. Mais des fois, j'ai écoulé des 700 litres en même pas une semaine, en 5 jours, tu vois. Donc, c'est vraiment des grosses quantités pour fournir, tu vois, pour faire de la vente en gros, en fait. C'est de la vente en gros, tout simplement. Et donc là, je me sentais utile au début parce que je me disais, je fournis un produit bon pour la santé. Après, d'un autre côté, je me disais, ouais, mais en fait, j'ai pas de plus-value par rapport aux autres. Je suis pas réellement utile. Que ça soit moi ou un autre, c'est pareil. En gros, je suis remplaçable. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi, je me suis pris des contrôles, par la DDPP, organisme de contrôle sanitaire. Je me suis pris 3 contrôles en tout. Et actuellement, je suis en cours de contrôle, contrôle fiscal actuellement. Mais celui de la DDPP, en fait, je me suis pris le contrôle et j'ai vu le stress qu'il y avait derrière tout ça. Et j'avais plein de frustrations que je sais que d'autres entrepreneurs ont toujours ces frustrations-là. Le fait de ne pas être aux normes, le fait de vendre un produit, t'es pas sûr, est-ce que t'es en règle? Si tu fais contrôler demain, on peut te saisir tout ton stock. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui m'ont beaucoup frustré à l'époque. Surtout quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est très compliqué de se lancer dans la cosmétique, l'alimentaire et tout, aux normes, tu vois, dès le début. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour que les gens puissent se lancer dès le début, facilement, que tout soit clair. Et que tout soit fait à leur place. Et il y a personne qui fait ça en France, surtout dans la communauté. Je connais personne qui fait ça actuellement. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Et là, par contre, je pense que ça peut être quelque chose de très utile parce que ça pourra sauver des business complètement à des frères qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont pas forcément savants, entre guillemets, des normes, tu vois. Et si t'es pas aux normes, tu vois, tu peux te faire bouffer tout ton business par un concurrent. Demain, un concurrent, il te balance. Ouais, regardez, il est pas aux normes. Tu te fais tout rafler du jour au lendemain, tu vois. Moi, c'est ce qui m'arrive avec le business de grossiste alimentaire, la DDPP, là, quand ils m'ont contrôlé, l'organisme de contrôle sanitaire, c'est quelqu'un qui les a envoyés chez moi. Ils sont pas venus comme ça, ils sont pas venus au hasard. Et donc, en fait, au final, le contrôle, il s'est bien passé. Je me suis pris aucune amende, rien du tout. Ils m'ont juste dit certaines choses à mettre aux normes et j'avais 5 mois pour le faire parce que c'est pas des choses graves. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu me mettre aux normes. Et moi, mon but maintenant, ça va être d'accompagner, des personnes dans ce domaine parce que c'est un domaine très technique où il y a beaucoup de responsabilités, où en fait, quand t'as ton nom sur l'étiquette, t'es responsable. Tu vois, c'est pas le conditionneur, celui qui a fait le conditionnement qui est responsable. C'est s'il y a ton nom sur l'étiquette, c'est toi le responsable. Et c'est toi, tu dois avoir le centre de conditionnement s'il faut meilleur travail. C'est toi, tu dois voir l'importation. Est-ce que ton fournisseur à l'étranger est aux normes, etc. Et c'est toi le responsable principal, tu vois. Après, bien sûr, s'il y a un problème au niveau du conditionnement, voilà, au début, ils vont aller vers toi et après, ils vont remonter vers la partie conditionnement pour voir s'il n'y a pas eu un problème. Donc, voilà. Alors, voilà. Mais ouais, dans le centre de formation actuellement, je me sens le plus utile. Mais je pense à l'avenir, ça sera plus le côté grossiste, tu vois. Parce que là, c'est vraiment un truc qui peut sauver des business, tu vois. C'est autre chose. C'est un autre niveau, je pense.
D'accord. Alors, avec toutes ces activités qui sont vraiment différentes, est-ce que tu n'as pas peur parfois, avec ton jeune âge, etc., de te perdre en faisant beaucoup de choses en même temps? Est-ce que tu as ce sentiment-là un petit peu? Il y en a, ils se ciblent sur une seule chose et ils foncent. Toi, j'ai l'impression que tu fonces, mais dans 5 choses en même temps. C'est pas beaucoup pour une seule personne?
En fait, moi, c'est ce que je recommande à mes apprenants et à tout le monde de faire une seule chose, surtout quand tu débutes, tu vois. Et à l'époque, pour te dire, c'était pire que là. Dis-toi, là, c'est cadré, là, actuellement. Parce que mes différents business, ils sont cadrés. Ça veut dire qu'il y a le temps pour chaque chose, tu vois. Mais au tout début, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, il faut faire qu'un seul business. Et ensuite, l'erreur, moi, que j'ai fait à l'époque, c'est des fausses bonnes idées qu'on trouve un peu partout sur YouTube. En gros, je te donne un truc. Dans une vidéo YouTube, dans des vidéos, ça disait que Warren Buffett, donc c'est un gros investisseur, il mettez pas tous ses œufs dans le même panier. Et moi, j'ai interprété comment? Pour l'entrepreneuriat. Je me dis, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut lancer plein de business différents. En fait, c'est la pire chose que tu peux faire. Parce que tu vas t'es parcours partout. Et à l'époque, j'ai fait quoi? Donc, je faisais de la création de site. Je faisais, de la conception 3D, de l'impression 3D. J'avais un business comme ça où j'avais des imprimantes 3D chez moi. Je faisais de la conception 3D de présentoir, de parfum. D'accord? C'est-à-dire, imagine, il y a quelqu'un qui a un business de parfum. Il veut, prendre les parfums. Enfin, il veut un présentoir pour présenter ses parfums dans des boutiques. Et ben moi, je le fais les présentoirs en impression 3D avec le logo qui sort et tout. Ça, c'est aussi un des domaines de compétences que j'ai. Parce que je l'ai appris en cours, ça. J'ai appris en cours et après, je l'ai appliqué chez moi. Et je l'exerçais énormément sur ça. Je faisais de la vente alimentaire, cosmétique, de la vente en gros. Je commençais à faire de la formation aussi à ce moment-là. C'était n'importe quoi, tu vois. J'avais une marque de parfum. C'était mon business qui marchait le mieux à l'époque. C'est mon business de parfum, moi, qui m'a lancé au début. Qui a fait que ça a fonctionné, que ça m'a permis d'investir et ça a fait effet boule de neige. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'éparpillais trop et qu'au bout d'un an, je me disais, mais en fait, j'ai avancé dans rien. J'ai énormément travaillé toute l'année, mais j'ai avancé dans rien. Je gagne 100 euros là, 200 euros là, 50 euros là. Et quand je me concentre sur un domaine, bah, tout le reste tombe. Je me suis dit, c'est pas bon de faire comme ça. Et avec le temps, en fait, j'ai construit mon business de grossiste alimentaire cosmétique et mon centre de formation. J'ai avancé comme ça. J'ai mis des process en place. C'est-à-dire que là, actuellement, sur mon business de grossiste alimentaire cosmétique, il y a deux personnes qui travaillent avec moi. T'en as un qui gère les envois à ma place. Donc, ce qui est chronophage, c'est un frère qui s'en occupe. D'accord? Il s'appelle Hachim. C'est lui qui s'occupe des envois. Il s'occupe des clients. Il s'occupe, bref, de tous les petits problèmes qu'il peut avoir. Moi, je suis là pour les gros problèmes. Il y a un autre frère qui s'appelle Walid qui gère les appels téléphoniques, le démarchage. On appelle des maktaba, des boucheries, des pharmacies, des trucs comme ça. C'est lui qui s'occupe de ça et qui les prend au téléphone pour les démarcher. Et moi, je m'occupe du marketing. C'est-à-dire, je fais en sorte que tout roule, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas un truc où je dois passer de 8h du matin jusqu'à 17h. Je pourrais en réalité et je gagnerais plus sur ce business. Mais moi, j'aime bien être stimulé sur différents business, sur différents domaines, sur plusieurs domaines différents. C'est ça qui me tient, tu vois, qui me fait tenir tous les jours parce que je me dis, à chaque fois, il y a des choses différentes à faire. Faire tous les jours la même chose pour de l'argent, moi, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, j'aime bien.
Je vois.
Ouais. Et en fait, donc ça, c'est pour mon business de grossiste et mon business de formation. Il y a aussi deux personnes. Il y a Walid aussi qui gère les appels téléphoniques. T'as un frère qui s'appelle Kamel qui gère les messages sur Snap. Et donc, moi, je me concentre sur la création de contenu, sur la mise en avant de la formation. Et ça veut dire, comme j'ai délégué une partie, et ben, en fait, je suis efficace même en étant un peu partout, tu vois. D'accord. Et c'est ça le truc. Le business de l'agence digitale sur laquelle je suis actionnaire. Là, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi dans cette agence digitale. Mais mon pôle création de site, il est en partie sous-traité aussi, tu vois, si j'ai pas le temps. J'ai une équipe qui est déjà prête pour faire de la création de site, mes apprenants et tout ça. Donc, tu vois, j'ai la main sur tout actuellement. Et comme j'ai délégué une partie, voilà. Par contre, si je devais tout gérer tout seul, ouais, impossible. Impossible, impossible.
Voilà, donc tu délègues pour justement, comment dire, travailler en équipe, c'est toujours mieux. On est à la moitié de l'émission, donc je vais parler du sponsor. Touba Clothing, c'est une marque de vêtements qui respecte la Sunna, selon trois points. Numéro un, Touba Clothing a fait en sorte qu'aucun enfant ne travaille pour fabriquer les vêtements, donc on ne culpabilise pas quand on porte le vêtement. Numéro deux, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Et Touba Clothing travaille avec une usine qui en gaspille le moins possible. Numéro 3, vous recevez votre vêtement dans un colis avec une genre de fermeture éclair, donc vous pouvez réutiliser, donc on pollue moins. Le code promo, c'est HB3SHOW, HB3SHOW attaché, et vous aurez moins 15% sur tous les produits de la marque Touba Clothing. C'est un frère, il faut aider la communauté, Inch'Allah. Nordine, j'ai une question.
Yes.
Si tu étais un animal, tu serais quel animal?
Un lion.
Là où moi, c'est les lions, les tigres.
Les lions, c'est les tigres. Le lion, c'est pour faire le mec viril.
Oh, non, mais tous les invités, c'est ça. Lion, tigre. Un sage. Ouais. Toujours ça.
Qui va partout. Un singe.
Un singe, malin, futé, rusé. Alors, Nordine. Quand tu te lances dans un business, quels sont tes critères? Tu te dis, c'est éthique, tu te dis, ça marche, tu te dis, j'aime bien, tu te dis, c'est à la mode. C'est éthique, d'accord, ça on l'a compris, il faut que ça soit éthique, il faut que ça respecte, bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Mais comment tu as le flair du businessman pour te dire, ah, ça peut marcher?
En fait, j'ai pas de flair. C'est-à-dire que moi, dans l'enseignement que je fais, c'est que je pars du principe de base qu'on peut faire de l'argent partout. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Dans tous les business, on peut faire de l'argent.
Tout marche.
Maintenant, le truc, c'est... Tout marche. Bah regarde, t'en as, ils font des millions d'euros avec des cure-dents, en vendant des cure-dents. T'en as, ils font des millions d'euros en vendant des chaussettes. T'en as, ils font des millions d'euros.
On en a besoin des cure-dents. C'est pas, on en a besoin.
T'as dit quoi?
Ça répond à un besoin. On en a besoin des cure-dents.
Oui. Bah
ouais, voilà. C'est pas bidon comme business quoi.
Même par exemple des fleurs. Tout en fait. Ouais, tout. J'ai un verre. Le mec peut-être qui fait ça, il gagne je sais pas combien. J'ai un cadre, j'ai une horloge, j'ai la lumière. On fait de l'argent avec tout. Sinon, tout ça, je les aurais pas chez moi. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui auraient été mises en avant. Mais que ce soit dans le design, dans l'immobilier, dans la création de site, dans le montage vidéo, dans ce que tu veux, il y a de l'argent. Maintenant, il y a des domaines, il y a de l'argent partout. Ça, c'est un truc qu'on peut pas, tu peux pas contredire ce fait-là. Par contre, tu peux me dire, ouais, tel business, par contre, est plus accessible que d'autres. T'en as certains, c'est basé sur des monopoles. Tu vois, des business, il y a de l'argent, mais il y a du monopole. Donc, en fait, le gros de l'argent, c'est une entreprise qui l'apprend.
Bien sûr.
Et donc, en fait, le truc, c'est déjà voir sa situation, voir son contexte personnel. Faut mettre des filtres. Tu dis, voilà, moi, mon premier filtre, déjà, c'est la religion. Est-ce que le business, première chose, est-ce que le business va être halal ou pas? Tu vois?
Bien sûr.
La deuxième chose, est-ce que c'est adapté à ton contexte? C'est-à-dire, tu vas pas me dire, imagine, tu es étudiant, tu travailles 2 heures par soir, t'as pas d'argent, faut pas me sortir, ouais, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et je vais chercher des investisseurs et rentrer dans des délires compliqués pour ouvrir ton restaurant, alors que t'as 2 heures par soir et tu commences à me dire, ouais, je vais déléguer et tu te fais des films. Non. Faut vraiment avoir un point de vue réaliste. Et se dire, voilà, dans ma vie, qu'est-ce qu'Allah m'a donné? Tout simplement, Allah m'a donné quoi? Parce que souvent, les gens, ils ne sont pas reconnaissants. Ouais, mais j'ai que 2 heures par soir. Ouais, mais j'ai que 1 heure par soir pour lancer mes business. Qu'est-ce que tu veux que je lance? J'ai qu'une heure. Ces personnes-là, je leur réponds, regardez ce que Allah, il vous a donné plutôt. Allah, il t'a donné 1 heure, 2 heures, exploite-les. Si tu as 1 heure, 2 heures et que tu as cette intention de te lancer dans l'entrepreneuriat, etc., c'est pas pour rien. Peut-être Allah, il t'a facilité justement l'accès à ce temps pour lancer quelque chose. Il faut juste lancer quelque chose qui est adapté à toi. C'est normal que quand tu regardes tes amis qui lancent des sociétés de transport, etc., tu dis, oh, bah, j'ai que deux heures par soir, c'est pas possible. Et en fait, pour moi, ça, c'est un manque de connaissance. Alors qu'en fait, si tu as 2 heures par soir, tu dis, alhamdoulilah, j'ai 2 heures par soir. Et qu'est-ce que je peux faire dans ces 2 heures-là? D'accord? J'ai des qualités. C'est quoi mes qualités? Par exemple, je suis bon à l'oral ou je suis timide. Voilà, moi, je suis plutôt à l'écrit. Comment je peux mettre ça en place? Si je suis plutôt bon à l'écrit et que je suis nul à l'oral, que je bégaye, que je suis timide, que j'ai pas envie de m'exposer, tu vas tourner dans la création de site SEO, par exemple, tu vois, référencement Google. Tu vas t'associer à un mec qui est bon en vente et toi, tu vas t'occuper de la création de site, du design et de toute la prestation de service en fond, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, en sous-traitance.
Oui,
il y a tellement de choses à faire qu'il faut juste regarder déjà son contexte.
Moi, par exemple, Excuse-moi de te couper. Oui. Donc, ce que tu es en train de te dire, c'est qu'il faut bien se connaître. Faut pas se mentir à soi-même, quoi.
C'est ça. Ouais, faut pas se voiler la face. C'est pas, oui, j'ai un rêve, je veux lancer ça. Tu peux avoir un rêve et lancer telle chose, mais si c'est ambitieux, tu vas déjà patienter. Moi, à l'époque, mon rêve, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était créer une marque de parfum. Tu vois? Et pour créer une marque de parfum aux normes, il fallait que je sorte minimum 12 000 euros par odeur. Tu vois, 12 000 euros par odeur. Wow. Moi, c'était trop. Je me suis dit, comment je vais récupérer cet argent? Et ben, je faisais la création de site. Je faisais de la formation. Je faisais ci. Tu vois? Au début, la formation, c'était pas un truc que je kiffais. Tu vois? C'était un truc, je me disais, ouais, je vais faire ça pendant une période et après, tu vois? Après, je ferai que ma marque de parfum une fois que j'ai l'argent. Mais je récupérais de l'argent là où il y avait, tu vois, là où il y en avait. Et après, comme ça, j'investissais tout sur ma marque de parfum. Et mon truc, c'était ça de base. Et comment dire? Et donc voilà. Donc en fait, je cherchais réellement à faire une chose que j'aimais. Et en fait, tout ce qu'il y avait autour, c'était juste dans l'objectif d'atteindre ce truc-là. Donc, si t'as un rêve, tu peux l'atteindre plus tard, ça c'est pas un souci. Maintenant, toi, là, avec tes compétences, avec tes qualités, faut se connaître soi-même. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là, avec tes capacités? T'as 1 heure, 2 heures. Ton objectif sur 5 ans, par exemple, c'est quoi? C'est t'expatrier. Imagine, c'est t'expatrier. Bah, je vais pas dire d'ouvrir un restaurant en France ou une chaîne de restaurants en France, parce que ça va te bloquer indirectement. Bah, je vais plus te diriger vers du digital. Bah, tu veux faire du business en ligne. Tu veux ne pas payer d'impôts dans tel pays, parce que c'est un business en France physique. Tu payes des impôts en France. Si par exemple tu t'expatries au Maroc, il te faut une société d'externalisation pour payer que 12,5% d'impôts. Tu vois? Ou même si tu ouvres une boutique, un restaurant au Maroc, bah, tu vas payer les impôts. Comme tout le monde au Maroc, tu vois, plein de tarifs. Alors que tu as une société d'externalisation, tu fais du digital et tout, tu vas payer que 12% et quelques. En plus, tu peux gagner des euros, tu vois ce que je veux dire, t'es beaucoup plus flexible. Et donc, en fait, ça dépend de chacun. Toi, tu te dis, en fait, la question, c'est où je me vois dans 5 ans. Et selon là où tu te vois dans 5 ans, avec ta famille, etc., eh ben, tu regardes ce que tu as. Donc, mon objectif, c'est ça, et j'ai ça pour l'atteindre. Comment je fais? Est-ce que je vais passer par des business intermédiaires afin d'atteindre mon objectif, ou est-ce que je peux l'atteindre directement, travailler pour l'atteindre directement? Et c'est ça les questions qu'il faut se poser. Et une fois que tu as trouvé, parce qu'en général, tu vas trouver plusieurs types de business qui vont te correspondre, tu vois, qui correspondent à ta situation. Pas forcément que tu vas aimer, mais qui vont correspondre à ta situation. Et là, tu regardes où je peux être le plus utile. Qu'est-ce qui manque dans la communauté? Et là, tu te poses ces questions-là. Et après, tu filtres encore. Et là, tu vas sortir 2-3 business sur le tout. Et là, tu choisis celui qui te plaît le plus et tu fonces dessus, tu vois. Moi, c'est plus de, tu vois, je mets des filtres en fait à chaque fois. Le filtre de la religion, halal ou pas. Le filtre de tes capacités, ton contexte et ton objectif sur 5 ans. Et ensuite, le filtre, est-ce que tu es utile ou pas? Est-ce que tu vas être utile réellement ou pas? Parce qu'en fait, les gens négligent beaucoup ça. Les gens, ils te disent, non, mais moi, je m'en fous d'être utile, je veux de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Mais si t'es pas utile, tu gagneras pas d'argent. Parce que les gens vont acheter des choses chez toi parce que tu es utile, parce que tu réponds à un besoin. Il y a personne qui, même si tu regardes les Jeff Bezos, les Elon Musk, les trucs, ils répondent à une problématique, hein, dans les business qu'ils font. L'argent, il tombe pas du ciel.
Bien sûr.
Et en fait, tous les business, c'est ça. Là où il y a de l'argent, c'est quand tu réponds à une problématique ou un besoin.
Exactement.
Une nécessité, encore mieux.
Alors, les musulmans, on est peut-être 20% de la population, et quand on regarde la liste des personnes les plus fortunées, on voit pas de musulmans. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi qui es dans le business, qui a fait un petit peu le tour, comment ça se fait qu'on n'a pas du branding, des grandes marques, des trucs qui nous appartiennent, comme font par exemple les Afro-Américains aux États-Unis? On est où les musulmans? Pourquoi on n'a pas ces grosses fortunes? C'est quoi nos lacunes vraiment? C'est quoi?
Moi, j'ai deux théories différentes. La première théorie, c'est soit que les musulmans en général ne sont pas assez ambitieux. C'est-à-dire, en fait, on fait de l'argent pour nous, ce qui suffit pour notre famille et tout, on dit alhamdoulilah, c'est bon. Ouais, je me barre au bled, tu vois. Mais dans ce délire-là un peu. Donc ça, c'est, pour moi, ça c'est la première théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on est ambitieux, mais pour nous, d'accord, pour nos propres projets, pour voilà, avoir de l'argent, pour mettre bien nos familles, mais on cherche pas, aller encore plus loin. On va se dire pourquoi on se casse la tête alors que frère, cette vie, vas-y, elle va finir. J'ai suffisamment d'argent, alhamdoulilah. En plus, les gens ils te font culpabiliser quand tu gagnes de l'argent. Ouais, mais l'argent c'est pas bien. Ouais, mais l'argent. Ouais, là, tu as déjà suffisamment, pourquoi tu cherches plus? Tu vois, tu as même des fois des imams, des prédicateurs, ils vont te tuer cette ambition-là, en fait. Cette ambition, alors que cette ambition peut permettre à plein de personnes de travailler, à recruter des gens de la communauté, etc. Bah, c'est une des solutions. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas poussé. Il n'y a personne, aucun imam demain va te dire, en France, hein, va te dire, ouais, essaie de lancer une multinationale. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux, vas-y, continue. Ou avoir un entrepreneur, il va dire, vas-y, essaie de tout exploser. Il va dire, non, fais attention, l'argent, ça peut rentrer dans ton cœur, ça peut tac, tac. Et là, tu t'écartes. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce que si l'argent, il rentre dans ton cœur, même si tu fais une multinationale, ça sert à rien. Tu vois? Donc, en fait, il faut réussir à concilier ce truc-là de comment je fais pour ne pas faire rentrer l'argent dans mon cœur, continuellement renouveler ses intentions. Et ça, c'est très, très dur. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de musulmans. En tout cas, les musulmans qui sont sincères, ça va leur faire peur, en fait. C'est ce truc-là. Tu vois? Mais moi, des fois, ça me fait, donc, je dis pas que je suis sincère ou pas, hein. Mais moi, ça fait très peur, ça. Tu vois, le fait de gagner beaucoup d'argent et tout. J'ai peur un jour de m'égarer. Et c'est pour ça que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, je gagne de plus en plus chaque année. Mais je garde mes mêmes habitudes financières. Je t'ai dit, je dépense 1 300 €, 1 400 € par mois. Pour moi, ma femme et mon fils, tu vois. Et mon fils est encore petit, tu vois. Et pourquoi, en fait? Pourquoi j'ai gardé ce truc-là? Alors, je pourrais vivre avec 3, 4, 5 000 peut-être par mois sans que ça me pose problème et avoir un meilleur confort de vie parce que j'ai peur de luxe. Enfin, j'ai vraiment peur d'ouvrir des nouvelles portes que j'ai pas encore traitées, entre guillemets. Parce que pour moi, en fait, plus tu gagnes d'argent, c'est comme si tu passes un palier. Là, on va dire, là, actuellement, tu gagnes, je dis n'importe quoi, imagine, tu gagnes 1 000 € par mois. Et bah, les tentations de 1 000 € par mois, tu les as fermées. Tu vois, les tentations que tu peux avoir pour 1 000 € par mois. Tu les as fermées, tout ça. Parce que t'as l'habitude, c'est ce que tu vis tous les jours. Quand t'es salarié ou quoi que ce soit. Par contre, quand tu passes de 1 000 € par mois à 3 000 € par mois, t'as des nouvelles possibilités. Et c'est ça le grand danger de la richesse. C'est que ça donne des possibilités. Et ça t'ouvre des nouvelles portes que tu dois fermer. Avec le filtre de la religion, tu dois te questionner, ok. Ah, mais ça, si je fais ça, peut-être c'est pas bien, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois te poser plein de questions. À chaque fois que tu gagnes plus, tu dois te reposer les mêmes questions. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de m'éloigner du luxe, tu vois. De rester dans un cadre où je travaille, je gagne de l'argent, je mets bien ma famille, mais moi, pour moi, je veux pas de luxe, personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, j'ai n'importe quoi. Demain, je pars dans tel pays, je suis avec ma femme, mon fils, je vais prendre un hôtel de fou. Tu vois? Je vais leur faire plaisir. Mais si je suis tout seul, je prends un truc normal, comme tout le monde, tu vois? Parce que j'ai peur de moi, que le luxe rentre dans mon cœur. Par contre, faire plaisir aux gens, dépenser mon argent pour faire plaisir aux gens, ça y a pas de problème, tu vois. Surtout ma famille et tout, ça c'est pas un problème. J'ai pas cet attachement à l'argent, tu vois. Je veux vraiment l'argent, je m'en fous. Donc, mais par contre, j'ai peur de ce luxe, tu vois. J'ai vraiment peur de ça. Et la deuxième théorie, c'est qu'en fait, on n'a pas accès à riba, au crédit, et que l'argent appelle l'argent. Et ça veut dire qu'une fois que tu prêtes, enfin, bien sûr, t'en as, ils se font ruiner par le crédit, les crédits bancaires. Là, surtout les taux à 4%, c'est n'importe quoi. Tu sais que tout à l'heure, j'ai regardé les taux à 4%, j'ai fait un calcul. Tu vois, ceux qui font des crédits bancaires et tout. Sur 1 000 000 €, tu dois payer 500 000 € en plus d'intérêt. Donc, tu payes un tiers d'intérêt. Tu payes 1 500 000 € 1 500 000 à la banque. Bien sûr, après, quand les taux d'intérêt baissent, c'est différent. Mais nous, on n'a pas accès à ça. D'accord? Moi, je suis de la vie. Pour moi, c'est la vie que riba, c'est interdit. Tous les crédits bancaires intermédiaires, c'est partie de riba. Et donc, c'est interdit. Et donc, je pense, on a ce blocage vers l'exponentialité. Tu vois? Un peu ce blocage-là où, même si on a des projets qui fonctionnent, parce qu'en fait, moi, je t'ai dit un truc, c'est que si tu arrives à faire, par exemple, 10 000 € par mois avec un business, des fois, il suffit juste de rajouter de l'argent pour passer à 100 000, tu vois, de rajouter des capitaux. Et prendre, de rajouter des capitaux supplémentaires, de se faire prêter de l'argent, quoi que ce soit, pour passer à 100 000, tu vois. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que nous, les possibilités qu'on a, c'est de se faire prêter de l'argent par les gens de la communauté. Donc, faut se faire confiance et tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà prêté 12 000 €, je me suis fait prêter 12 000 € par des frères de la communauté, de mon staff, tu vois. Ils m'ont prêté 12 000 € en tout. Et après, il m'a passé 4 000, un autre 2 000, un autre 1 000, tu vois. Et après, je les ai remboursés. Et parce que c'était à l'époque où je voulais lancer ma marque de parfum. Et c'est ça qui m'a permis aussi de lancer mon business de grossiste au passage. Qui l'a fait bien fonctionner. Parce que c'est là que j'ai pu récupérer des grosses quantités de stock. Et là, j'ai pu les vendre en quantité. Et ça m'a fait rapporter beaucoup plus d'argent. J'ai remboursé. Et là, le truc continue, tu vois. Ce business continue. Donc je pense, ouais, en fait, le gros blocage, c'est ça. C'est qu'on a... On sait démarrer, parce que pour moi, les entrepreneurs musulmans, pour moi, c'est parmi les meilleurs. Mais en termes, parce qu'on cherche l'entrepreneuriat, tu vois. On aime ça. C'est-à-dire, on n'a pas forcément peur du risque. Quand je vois d'autres communautés, dans d'autres communautés, ils ont très peur de lancer l'entrepreneuriat, tu vois. Ils ont, pour eux, le salariat, c'est comme ça. Ils réfléchissent pas. Ils se disent pas expatriation. Ils n'ont pas les contraintes que nous, on a. Et en fait, c'est dans la diversité que tu crées des bons entrepreneurs, tu vois. Et je pense que les musulmans actuellement, là, surtout à notre époque, ma génération et la génération qui vont venir, ils voudront tous se lancer dans l'entrepreneuriat. Parmi eux, tu auras des très bons entrepreneurs, mais pour lesquels ils vont manquer de capitaux. Et en fait, avec le cheminement, avec le temps, au final, je pense, au bout d'un moment, tu vas te contenter de ce que tu as, tu vois. Parce qu'en fait, la vérité, quand tu gagnes des 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Je connais un frère, il gagne 200 000 euros par mois. Tu vois, quand tu, en fait, au bout d'un moment, tu dis pourquoi je vais gagner ça? Tu vois, ça sert à quoi? Parce que quand tu regardes réellement 5 000 euros par mois, tu fais tout ce que tu as envie de faire en réalité. Tout le reste, c'est du plus, tu vois, c'est vas-y. Donc pourquoi te prendre la tête pour le, à peu près le même confort, bah, gagner 10, 20, 30, 40, 50 000 euros supplémentaires? Sauf pour les personnes qui aiment l'argent, tu vois, qui ont ce truc-là dans le cœur. Mais quand tu détaches l'argent de ton cœur, tu fais un travail, une sorte d'introspection, tu vois, tu essaies de retirer l'amour de l'argent de ton cœur, au bout d'un moment, tu dis, mais ça suffit ce que j'ai. Et là, ça te casse un peu ton ambition, tu vois. Donc, je ne sais pas comment concilier. Actuellement, je ne sais toujours pas comment concilier entre tout ça. Entre le fait de vouloir gagner beaucoup, être ambitieux, mais de l'autre côté, préserver l'argent de son cœur. Parce qu'on n'est pas là pour ça de base. Tu vois, les musulmans, on est là pour l'au-delà. Bien sûr, avec l'argent, on peut faire travailler des gens. Si c'est bien utilisé, l'argent, c'est magnifique, tu vois. Comme Sofiane Thaouri, dans les années 700, il a dit, l'argent est le bouclier du croyant. T'imagines? Et nous, que dire en 2024, tu vois? Que dire en 2024 où l'argent, en fait, c'est, voilà, une époque de capitalisme, où justement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tout simplement, tu vois? Et Sofiane Thaouri, il l'avait dit dans les années 700, l'argent est le bouclier du croyant. Mais si c'est bien utilisé, bien sûr. Pour certains, ça les a égarés. Il y a un hadith du prophète, où une personne est venue voir le prophète, et il lui a demandé, invoque pour moi pour que je devienne riche. Invoque pour que je devienne riche. Le prophète, il a dit, non, ça suffit ce que t'as. Il insistait. Le prophète, il a fait des doigts pour lui, pour qu'il devienne riche. Cette personne venait tout le temps à la mosquée, hein. C'est-à-dire, elle était toujours là pour la mosquée, payer sa zakat, etc. Je sais pas s'il pouvait payer sa zakat, mais en gros, il faisait toutes les obligations comme il pouvait. Et ce qui s'est passé, c'est que, le prophète a invoqué pour lui, cette personne est devenue riche. Il commence à délaisser les prières en groupe, jusqu'au point où il a commencé à aimer l'argent, et il voulait plus payer sa zakat. Devant le prophète, wow. Il a dit, je veux pas payer ma zakat. Il voulait pas payer sa zakat. Le prophète, il est décédé. Après, Abou Bakr qui est arrivé. Et il s'est remis en question. Tu vois, ce compagnon, il s'est remis en question. Il a dit, non, mais là, j'ai fait un truc de fou. Faut que j'aille, tu vois, j'aille voir Abou Bakr et payer la zakat. Tu sais, il a répondu quoi, Abou Bakr? Il a dit, si le prophète n'a pas accepté ta zakat, n'a pas pris ta zakat, je voulais dire, eh ben, moi, je te la prends pas. C'est un truc de fou. Tu vois, donc, tu dis d'un côté, l'argent, ça peut être incroyable parce que tu peux faire, là. En fait, il a dit, tu peux, tu parraines un orphelin, celui qui parraine un orphelin, il sera comme ça. Il a rassemblé ses deux doigts. Au jour du jugement, avec moi, tu vois, dans l'au-delà avec moi.
Bien sûr.
Tu dis construire un puits, tu dis c'est une des meilleures aumônes, tu dis faire trop de trucs, c'est trop facile en fait. Quand t'as de l'argent, construire un puits, c'est rien. C'est comme si t'envoies 50 euros à quelqu'un, tu vois. C'est trop facile. Et tu peux en faire en quantité énorme. Mais même si tu fais ça, en fait, le fait d'être constamment concentré sur ton travail, ça peut te diminuer ton niveau de spiritualité. Tu vois? C'est-à-dire que même si l'aumône, moi j'ai l'impression que l'aumône, en tout cas, que tu fais, même si t'en fais en quantité, ça va pas forcément augmenter ton niveau de spiritualité, ce que t'as dans le cœur, tu vois. Et des fois, bah, même si tu fais des aumônes et tout, tu peux te voiler la face en disant, non, mais je fais ça, je fais de l'argent pour aider. Mais au bout d'un moment, tu vas plus ressentir la religion dans ton cœur. Et moi, pendant une période, ça m'a fait ça. Et après, tu te remets en question, tu vois. T'arrêtes de travailler pendant un moment, tu te poses, remise en question, renouvellement des intentions. Donc ça, c'est une chose, tu vois. Pour moi, c'est très technique. Et tout est basé sur de l'intention, en fait. Et l'intention, elle change, tu vois. C'est-à-dire, même moi, quand je te dis, par exemple, en business de formation, des fois, je suis là en mode, je veux aider les apprenants à mort, tu vois. Je suis vraiment dans là, je me dis, faut qu'ils réussissent, absolument. Des périodes, imagine, j'ai une galère financièrement ou quoi que ce soit, dans ma famille ou quoi, vas-y, c'est plus ma priorité, tu vois, c'est plus moi maintenant, je vais me concentrer sur moi, vas-y, il faut que je génère de l'argent et tout. Donc, bah, à ce moment-là, est-ce que je suis sincère, est-ce que je fais ça réellement pour Allah, etc., tu vois. Donc, voilà, il y a plein de questions, mais après, ça, c'est, voilà, c'est selon l'échelle que tu vas taper, comme je t'ai dit, quand tu passes de 1000 à 2000, 3000, en fait, c'est les fluctuations de gains qui vont te ramener à certains doutes, à certaines tentations. Par contre, si tu gagnes toujours le même argent ou tu gagnes progressivement, comme moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant 8 ans, moi, bon, je suis monté à, voilà, actuellement, je suis à plus de 5 chiffres. Enfin, 5 chiffres. Avec le temps, bah, même si maintenant je suis à 5 chiffres, bah, en fait, ça ne change rien à ma vie. Je suis normal, tu vois ce que je veux dire? Je fais mes courses normales. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui change. Le seul truc que je fais, c'est que je mange bio, par exemple. Tu vois, je mange bio maintenant. Avant, je ne mangeais pas bio. Bah, rien d'autre, en fait. C'est ça, ma grosse dépense, c'est la nourriture. Moi, c'est bio. C'est tout.
D'accord.
Et alors... parce que je me dis, c'est un truc bien pour la santé. Tu vois, c'est pour ma santé, je préserve la santé. Donc là, je me dis, ce n'est pas de la dépense inutile.
Machallah. Tu vois?
Donc voilà, moi c'est la vision que j'ai. Donc moi j'ai très peur de tout ça, tu vois. Pour ça, moi je pense, comme tu as dit, pour résumer rapide, c'est soit, donc il y a deux théories, soit bah, le musulman a peur d'aller trop loin, que ce soit pour sa propre personne, que ce soit parce qu'il se fait décourager des gens, chacun a, je pense, a sa raison, et on manque de capitaux. La deuxième théorie, c'est que comme on peut pas faire de crédit, on manque de capitaux, on est en concurrence avec des gens qui peuvent lever des millions d'euros, alors que nous on doit se compter sur nos propres moyens pour évoluer, tu vois. Donc il n'y a pas d'effet de levier, c'est ça que je veux dire.
D'accord. Voilà. Alors, mon frère, tu nous as dit énormément de choses, mashallah, et je t'en remercie.
Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Norgine pour l'année 2024 là ? Quels sont les projets ? Peut-être que tu peux pas tout nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut attendre rapidement là de ta part dans cette année 2024 ?
Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai racheté cette année le site Muslim Expat. En décembre, j'ai récupéré le site vraiment, j'ai mis la main dessus là en janvier-février. Et donc, en fait, j'ai acheté ce site parce que moi, j'ai vraiment cette vision où, c'est peut-être pas ta vision, mais en gros, ma vision où faut s'expatrier, enfin, faut partir de ce pays. Tu vois ? Je sais que la France, tu vois, elle nous a donné beaucoup, etc. Mais moi, je suis pas trop dans cette vision. Dans cette vision, j'ai grandi en France parce que j'ai grandi en France. Bien sûr, on a eu des possibilités que d'autres pays n'ont pas forcément pu avoir. J'ai un truc tout bête, hein, juste les moyens de paiement Stripe. Avoir un compte bancaire français et avoir la possibilité de faire des paiements carte bancaire sur ton site. Déjà, niveau entrepreneuriat, c'est magnifique, tu vois. T'as plein de facilités comme ça sur l'entrepreneuriat. C'est très ouvert. Mais par rapport à l'écosystème, j'ai un enfant maintenant. Je me dis, je me suis toujours juré que jamais je ferai grandir mon enfant en France. Par rapport aux études, tu sais très bien ce qu'on apprend maintenant en cours, à l'école. Et je me dis, c'est pas possible, tu vois. Ça serait mauvais pour c'est ma vision, hein. C'est ma vision. Oh, ouais. Mauvais en tant que père pour mon fils de laisser mon fils en France. Et pour moi, c'est un devoir de partir, tu vois. Donc moi, ça, c'est ma vision. Et une fois qu'Inch'Allah, donc cette année, Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais essayer de m'expatrier au Maroc. Qu'Allah me facilite.
Inch'Allah, Amin.
J'en ai la possibilité financière, etc. Mais moi, c'est pour plusieurs raisons, j'ai préféré le retarder. Et une fois que je serai là-bas, Inch'Allah, je vais beaucoup plus mettre en avant le côté expatriation, en fait. Ça dépend après de mon ressenti sur place. S'il n'y a pas forcément de ressenti, je fais comme d'habitude, je développe mes business, j'essaie de faire grossir mes business, recruter plus de personnes et tout, faire travailler plus de gens. Par contre, si je pars au Maroc et que je me sens vraiment épanoui dans l'expatriation, je parle bien d'expatriation parce que j'ai là l'expatriation. Moi, je parle plus d'expatriation parce que je pense beaucoup aux impôts, aux trucs comme ça, même s'il y a une partie religieuse, tu vois. Mais l'intention n'est pas exclusivement, la vérité elle n'est pas exclusivement pour Allah, tu vois. Je vais pas dire, ouais, c'est 100% pour améliorer ma religion, sinon je serais parti à Médine, tu vois ce que je veux dire, si c'est exclusivement pour la religion. Mais c'est en partie pour la religion, en grande partie pour la religion, mais aussi pour les impôts et beaucoup de choses. Bon, même si le bien du musulman, l'argent du musulman fait partie en fait de la charia, des choses que protège la charia, le bien du musulman. Si en France tu te fais racketter la moitié de ton argent, c'est pas normal aussi. Ça peut être une raison aussi, qu'on peut voir d'une façon religieuse, Allah alam, je sais pas. Et donc ouais, en fait, mettre en avant à fond l'expatriation, mettre des services en place. Le site Muslim Expat, actuellement, il y a 9000 visiteurs mensuels, 6000 personnes sur le groupe Facebook. Et le but, c'est que dans chaque pays, j'aille voyager dans différents pays et j'aille interviewer des gens qui sont expatriés, en fait, tu vois. Mais en face à face, podcast, caméra, tout ça. Et c'est de partager l'information. Pas forcément inciter les gens, mais partager au maximum l'information d'expatriation. Et pourquoi pas lancer un second business d'accompagnement à l'expatriation avec des contacts dans chaque pays, etc. Faire des pôles, tu vois, des pôles au Mali, des pôles au Maroc, des pôles en Tunisie, en Algérie, en Arabie Saoudite, à Médine, ce que tu veux, en Malaisie et tout, pour simplifier l'expatriation. Moi, je veux pas inciter les gens, mais au moins simplifier. Quelqu'un demain veut s'expatrier, il se dit pas, ouais, il y a une montagne en fait à franchir. Non, regarde, il y a des exemples, des témoignages de personnes qui sont expatriées partout dans le monde. Et en plus, on a mis des systèmes en place pour te faciliter tout, tu vois, la paperasse, l'expatriation, pour avoir la résidence fiscale là-bas, je sais pas quoi, tu vois, tous ces trucs-là, le but, c'est de simplifier au maximum. Ça va être mon travail, je pense, sur les prochaines années, si je m'épanouis dans l'expatriation, et je pense que c'est un bien.
Voilà. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, mon frère. On arrive à la fin de l'émission. Merci énormément d'avoir accepté de venir.
C'est un plaisir. Merci beaucoup.
Partager un petit peu ton histoire, ton aventure et toute ta philosophie, toute ta vision autour de l'entrepreneuriat. J'espère que ça va aider un maximum de personnes. Et j'en suis sûr, ça va aider un maximum de personnes. Et je te laisse le mot de la fin avant qu'on termine l'émission, Inch'Allah.
Moi, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, mais en tout cas, essayez de vous lancer dans l'entrepreneuriat selon votre vision, selon votre contexte, selon ce que vous avez en place. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Toujours, j'ai pas, j'ai peur, j'ai si. Regarde ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné 1 heure, 2 heures par soir. Essaye de l'exploiter proprement. Ça sert à quoi de rentrer chez toi, regarder Netflix? Ouais, je me décontracte. Mais dans 5 ans, ta vie, elle aura pas changé. Tu peux te décontracter autant de fois que tu veux. Si tu te décontractes, c'est qu'il y a un problème dans ta vie en soi. C'est que ta vie, déjà, elle est contractée, entre guillemets. C'est que déjà, t'as une frustration dans ta vie. Et le but, c'est de changer ça. C'est de sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, il faut sacrifier une partie de sa vie, que ça soit une année, que ça soit plusieurs mois, ça dépend de chacun. Chacun, Allah accorde sa réussite à chacun, selon un temps déterminé. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment qu'est-ce que Allah m'a donné et qu'est-ce que je peux exploiter à travers ça. Et au moins, tu dis, même si tu rates, tu prends de l'expérience, t'apprends des choses. Et dans tous les cas, ce temps-là, tu aurais perdu devant Netflix. Donc autant faire quelque chose de bien et avec une bonne intention, peut-être tu vas prendre des hasanettes plutôt que de perdre ton temps. Et même religieusement parlant, tu vas perdre ton temps, c'est lourd. Tu te dis, ah, je perds mon temps. Tu vois, alors que le temps, c'est très important. Et comme le prophète a dit, il y a deux choses que les gens négligent, le temps et la santé. Voilà, c'est le mot de la fin.
Barakallahu fik, on ne peut pas faire mieux sur la parole du prophète, que la paix et la sanction sur lui. En tout cas, c'est la fin de HB3 Show. On se dit à la prochaine. Salam.
Salam alaikum.